On va s'ajuster un petit peu, mais on va terminer un petit peu plus tard. Merci pour le chant. Thank you very much for the song. I don't see your husband there. Okay. Thank you very much. It was a real blessing for me. Thank you. Merci à toute l'équipe de louanges. Quel temps. Quel temps pour rencontrer notre Dieu. Fait du bien. C'est précieux. Ce matin, je suis ici pour bien sûr qu'on penche les regards ensemble sur la parole de Dieu, qu'on puisse écouter ce que notre Dieu a à nous dire et en même temps pour continuer à apporter une direction au niveau de la vision de l'Assemblée. Et donc, je suis ici pour vous présenter un deuxième objectif de notre vision. Je vais le faire à l'aide de Matthieu 28. Mais juste pour se situer, si je peux avoir ma deuxième acétate, Nathalie, s'il te plaît, simplement vous relire comment on a essayé de résumer notre vision, on l'a appelée notre passion. Nous avons essayé de résumer l'ensemble du mandat qui nous est confié, d'accord? C'est une phrase qui est un peu lourde et en même temps, si vous prenez le temps d'entendre chacun des mots, vous allez voir que ça résume très, très bien le mandat biblique. Notre passion est d'amener le plus grand nombre à la connaissance personnelle de Jésus-Christ en communion avec la famille de Dieu. Nous voulons participer à leur croissance dans la ressemblance de Christ, ainsi qu'à leur consécration au service dans la compassion, afin qu'ensemble, nous célébrions le nom du Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'on est ici. Autrement, le Seigneur vient nous chercher, on va le rejoindre et on entre tout de suite, uniquement dans la célébration, uniquement pour l'éternité. On a résumé cela à 6 objectifs. Prochaine acétate, s'il te plaît. Premier objectif, la connaissance de Jésus-Christ dans le sens d'évangélisation, dans le sens de communiquer le message. C'est ce que Normand nous a présenté le mois dernier avec des objectifs plus précis, ce que nous désirons réaliser, comment on va accomplir cet objectif à l'intérieur des prochaines années. C'est ce qu'on a vu le mois dernier. La communion avec le corps de Christ, un enfant de Dieu sans une église, c'est un sans-abri. C'est vrai? Selon les Écritures, à tout le moins. J'ai bien aimé cette expression. Alors, nous voulons les amener en communion avec le corps de Christ pour qu'ils soient à l'abri du corps de Christ, vraiment près du Seigneur. Troisièmement, croissance à l'image de Christ. C'est tout le processus en termes théologiques qu'on appelle la sanctification. Christ a pris l'engagement de nous transformer. Dieu a pris l'engagement de nous amener à l'image de son Fils. Je suis loin d'être rendu. Maintenant, ce processus-là s'accomplit en bonne partie pendant ma marche sur terre, à travers différents outils que Dieu va utiliser et l'œuvre de son Esprit Saint. C'est ce que je vais aborder avec vous ce matin. Quatrièmement, la consécration au service. Cinquièmement, la compassion en action. Sixièmement, la célébration, qui est tout le volet de l'adoration. En bonne partie, ce qu'on vient de faire à travers tous ces chants. Mais on continue à le faire en écoutant la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, simplement pour vous situer, on a vu déjà, le mois dernier, la connaissance de Jésus-Christ. Et ce matin, on va voir ensemble la croissance à l'image de Christ. Ce soir, à 18h30, tous les dirigeants de petits groupes, tous ceux qui aspirent à diriger des petits groupes, tous ceux qui sont impliqués dans des ministères comme responsables et tous ceux qui sont intéressés sont bienvenus à 18h30. On va pouvoir entrer un peu plus dans le comment de tout ça, parce qu'on va se concentrer une bonne demi-heure juste là-dessus, alors que ce matin, on va aller davantage dans les Écritures et on va survoler cet aspect-là. Merci pour les acétates, c'est tout pour l'instant. Penchons-nous ensemble sur la parole de Dieu dans le chapitre 28 de l'Évangile de Matthieu. Dès la résurrection de Jésus-Christ, dès sa résurrection, dès la disparition de son corps, il y a deux versions qui ont circulé. Et jusqu'à ce jour, il y a deux versions qui circulent. En gros, on peut les camper dans deux versions. Je vous lis les versets 11 à 15 de Matthieu 28. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine, puisque le corps est disparu. Ses soldats sont menacés de mort, littéralement comme jugement militaire. Verset 15, les soldats prirent l'argent. Ils auraient dû écouter le conseil de Jésus, se satisfaire de leur solde. Ces soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Si Matthieu avait vécu à notre époque, il avait écrit son évangile, il aurait dit « parmi le monde jusqu'à ce jour ». Ça, c'est la version officielle, la version de ceux qui ont été achetés. Les disciples sont venus de nuit, ont dérobé le corps. C'est pour ça que nous ne pouvons pas produire la preuve qu'il est toujours mort. C'est la version officielle. C'est celle qui s'est rendue aussi jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est seulement une des deux versions. Voici la deuxième version, versets 16 et 17. « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. » Deuxième version. Ceux qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Le terme qui est là, ils sont tombés à genoux et ont commencé à adorer Jésus. Parce qu'ils l'avaient vu mourir sur cette croix. Et ils l'ont vu de leurs yeux. Ils sont tombés à genoux et ont commencé à l'adorer. Matthieu ajoute un commentaire. C'est tellement frappant à quel point les Écritures sont honnêtes. Mais quelques-uns eurent des doutes. En face de lui, ressuscité, quelques-uns eurent des doutes. La résurrection n'a pas chassé tous les doutes. C'est tout un processus vivre par la foi. C'est tout un processus de croire en Dieu, de croire en Christ. Et les Écritures sont très, très honnêtes. Alors, il y a eu deux versions. Ceux qui ont présenté la version officielle, celle des chefs religieux de l'époque, ont utilisé certaines méthodes pour transmettre leur version jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait des disciples, en quelque sorte, pour promouvoir leur version. Et elle s'est rendue jusqu'à nos jours. Elle est très présente. Extrêmement présente. On l'entend partout. C'est la version des médias. C'est la version officielle. Bien des gens disent croire en Jésus. Mais est-ce que vraiment il est ressuscité? Ça, c'est une autre histoire. Peut-être qu'il est plutôt un grand sage, un grand prophète. L'islam même a embrassé cette version, n'est-ce pas, parce qu'ils disent qu'un disciple de Jésus s'est substitué au maître au moment de l'arrestation et de la crucifixion. Et ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, c'est un de ses disciples. Alors, ils ont embrassé cette version officielle. La version s'est rendue jusqu'à aujourd'hui. Jésus est un grand sage, un grand prophète. Mais il n'est pas mort sur cette croix ou à tout le moins il n'est pas ressuscité. Les témoins oculaires, eux, ont transmis leur version jusqu'à ce jour aussi. C'est important de remarquer que les soldats n'ont jamais prétendu être des témoins oculaires. Jamais. Ils n'ont pas vu le corps. Ils n'étaient plus là. Ils ne sont pas des témoins oculaires. Ils ont été achetés. Mais ceux qui ont vu Jésus, qui l'ont touché de leurs mains, ont transmis leur version de la résurrection jusqu'à ce jour. Et pensez à ça un instant. Cette version-là est partie de Jérusalem. Quelques hommes, quelques femmes de Jérusalem a traversé montagnes et rivières, océans et continents pour se rendre jusqu'à Longueuil, entre autres. Et bien sûr, cette version a traversé les siècles pour se rendre jusqu'à nous aujourd'hui. Cette version a dû faire face à des persécutions incroyables. Ceux qui l'ont transmis ont dû faire face au feu, à l'épée, aux calomnies. On s'est moqué de cette version dès le départ. Et pourtant, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, elle s'est rendue jusqu'à nous aujourd'hui pour qu'il y ait une assemblée ici de gens qui continuent à défendre le témoignage des témoins oculaires. Amen. C'est la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, regardez bien dans le texte. Quelle méthode les témoins oculaires ont pris pour transmettre leur version jusqu'à aujourd'hui? Quelle a été la méthode pour transmettre cette version jusqu'à ici? Est-ce qu'ils sont allés écrire un livre? Et on s'entend, Dieu s'est servi de la parole de Dieu. La Bible est un outil essentiel à notre foi. Mais dans le passage, quelle est la prescription, quel est le mandat qui a été donné aux 11 disciples qui sont là? Est-ce que Jésus leur a dit, « Allez vous enfermer dans une salle, écrivez tout cela, commencez à acheter des timbres par milliers et vendez des tonnes et des tonnes de copies. » Répandez la version. Ce n'est pas ça qui a été mentionné ici. Ce n'est pas le mandat que Jésus a donné. Ah, bien sûr, ils vont le faire. Merci, Seigneur, ils vont le faire. Le mandat qu'il leur est donné ici, verset 18, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu nous dit ici que Jésus-Christ a dit à ses 11 disciples, Jésus a dit à ses 11 disciples, « Vous m'avez vu, vous m'avez connu, vous avez vécu avec moi, vous avez appris en vivant avec moi. Maintenant, allez, littéralement, allez passer au suivant. Allez passer au suivant tout ce que je vous ai donné. Allez déverser dans une autre vie tout ce que vous avez reçu de moi. Parce que vous avez marché avec moi. » C'est intéressant simplement de remarquer que Matthieu ne dit pas ici les 11 apôtres. Dans Matthieu 10, il les appelle les apôtres. Mais ici, il parle des disciples. Parce que ce sont des disciples qui vont transmettre ce qu'ils ont reçu à d'autres disciples. Regardez bien le mandat qui est donné ici. Matthieu dit, et le mandat ne s'est pas arrêté aux 11 premiers disciples. Leur mandat, leur prescription a été d'enseigner à d'autres à observer tout ce que Jésus a prescrit. Est-ce que vous voyez la boucle? La prescription que Jésus a donnée à ses 11 disciples, c'est d'aller vers des hommes et des femmes qui vont recevoir la bonne nouvelle et d'enseigner à ses nouveaux disciples à observer tout ce que Jésus a prescrit, dont celle d'aller faire des disciples, qui vont aller vers d'autres disciples pour enseigner à ses disciples à faire et à observer tout ce que Jésus a prescrit, dont le fait de faire des disciples, qui vont aller vers d'autres disciples à qui ils vont enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit, dont celui de faire des disciples. À travers les siècles, jusqu'à Longueuil, en 2008, et non seulement jusqu'à Longueuil, mais tous les jours, jusqu'au retour de Christ et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que Jésus leur a commandé, c'est d'aller passer au suivant ce qu'ils ont reçu. La méthode n'était pas de donner un cours, d'écrire un livre et de le répandre partout sur la terre premièrement. La méthode était de transmettre ce qu'ils avaient reçu. Et la raison est très simple. Jésus ne leur a pas commandé seulement d'annoncer une bonne nouvelle. Jésus ne leur a pas commandé seulement d'annoncer quelque chose de nouveau. Le mandat ne s'est pas arrêté seulement à ces 11-là. S'ils n'avaient eu qu'une bonne nouvelle à annoncer, je veux dire, tout ce qu'ils auraient eu à faire, c'est d'aller s'enfermer avec quelques hommes, je veux dire, les 11 auraient pu le faire, ajoute Paul, 2-3 écrivains, ils vont s'enfermer dans une maison et ils écrivent, sous l'inspiration du Saint-Esprit, un livre. Ils le recopient, et on en distribue des tonnes de copies partout sur la terre. Et le travail est fait. Les 11 auraient pu faire ça, ajoutez Paul, 2-3 bons écrivains, puis le travail est fait. Je veux dire, ils l'ont fait, c'est le Nouveau Testament. Dieu merci, ils l'ont fait. Mais s'ils n'avaient fait que cela, est-ce que le mandat aurait été accompli? le mandat n'aurait pas été accompli. Parce que leur mandat n'était pas de former des théoriciens. Regardez bien ce qu'il leur est dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des gens qui volontairement vont venir s'asseoir aux pieds du Maître, recevoir ses paroles comme celles d'un Seigneur. Ça ne se fait pas simplement avec un tableau et une craie, ça. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, des gens qui vont s'avancer publiquement pour prendre témoignage, rendre témoignage qu'ils ont un Seigneur dans leur vie qui les a sauvés en mourant sur la croix au prix d'être rejetés par ce pas public, par leur famille. Ça ne se fait pas simplement avec un tableau et une craie. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Notre mandat, c'est d'apprendre à des gens à lire et à méditer la Bible pour qu'ils méditent sur les prescriptions de Jésus. Notre mandat, c'est de leur apprendre à témoigner de leur foi, à surmonter leur peur, à avoir le courage de se tenir debout pour Christ. Notre mandat, c'est de leur apprendre à pardonner comme Christ a pardonné lorsqu'il y a des offenses qui surviennent. Notre mandat, c'est de leur apprendre à visiter des gens qui sont malades, savoir quoi dire, comment écouter, comment aimer. Notre mandat, c'est de leur apprendre à servir les gens qui sont dans le besoin. Notre mandat, c'est de leur apprendre à résister aux attaques de l'ennemi qui vient et qui veut les faire douter dans leur foi lorsqu'ils traversent des épreuves comme la maladie. Notre mandat, c'est de leur apprendre à chercher d'abord le royaume de Dieu plutôt que les richesses de ce siècle. Ça ne s'apprend pas juste avec un tableau puis une craie, ça. Ça s'enseigne par une vie qui est déversée dans une vie. C'est comme ça qu'on enseigne ces choses-là. C'est la méthode que Jésus a employée. Notre mandat à l'Église de l'Espoir, qui nous est donné par le Seigneur Jésus, ce n'est pas de former des grosses têtes. Si notre mandat, c'était juste de donner des cours, les pasteurs, quelques enseignants de plus, on est capable de faire ça, on donne des cours ici. Nous donnons des cours ici. Mais notre mandat, ce n'est pas de former des grosses têtes. Et par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, l'Église de l'espoir ne sera pas l'Église des grosses têtes. Ça va être l'Église des cœurs et des vies transformées par Jésus-Christ. J'ai la ferme conviction que le mandat d'aller et de former des disciples est donné à tous les disciples de Jésus-Christ. J'ai la ferme conviction que nous sommes tous responsables de transmettre ce que nous avons reçu dans la mesure de nos capacités. Voyez-vous, la formation de disciples, selon Jésus, c'est un mandat, une responsabilité à la fois individuelle et communautaire. C'est une responsabilité individuelle. Chacun d'entre nous qui a reçu et connu Jésus-Christ est responsable de transmettre ce qu'il a reçu, dans la mesure de ses capacités. Ne sommes-nous pas tous responsables de témoigner, de partager notre foi? C'est pas tout le monde qui va aller comme prof de séminaire. C'est pas l'appel de tous, c'est chacun selon nos dons. Ne sommes-nous pas tous responsables de partager notre foi? Ne sommes-nous pas tous responsables d'aller vers un frère, vers une sœur pour l'encourager, pour prendre un engagement, de prier pour cette personne et de la soutenir? C'est une responsabilité premièrement individuelle, la formation de disciples. Je suis responsable de redonner ce que j'ai reçu. Et savez-vous pourquoi je suis tellement ferme avec ça, tellement convaincu de ça? C'est premièrement parce que je le vois dans les Écritures. C'était la méthode de Jésus, c'était la méthode de Paul, c'était la méthode de Barnabas, c'était la méthode des Écritures. Et deuxièmement, c'est parce que moi, je l'ai reçu, ça. Et je sais très, très bien que je suis en train de vous parler de quelque chose que vous n'avez pas tous reçu. Plusieurs d'entre vous, vous avez reçu des encouragements, des tapes dans le dos. et vous avez goûté à l'aspect communautaire de la formation disciple. Vous avez vécu avec l'Église. Et c'est merveilleux. C'est la place pour grandir dans la foi. Mais vous n'avez peut-être pas eu le privilège que moi j'ai eu d'avoir des hommes qui, tour à tour, se sont engagés à s'investir sérieusement dans ma vie pour faire de moi un disciple de Christ. Moi, j'ai eu ce privilège-là. Je l'ai toujours eu. Toute ma vie chrétienne, j'ai eu des hommes qui sont venus vers moi ou je suis allé vers eux et je leur ai demandé formellement de me prendre en main. J'ai goûté ça. J'ai goûté cette grâce de savoir que j'ai un rendez-vous qui m'attend où je vais pouvoir épancher mon cœur, vider mon cœur sur mes doutes sur l'existence de Dieu. J'ai un frère plus mature qui m'attend dans un mois, dans une semaine, dans deux semaines, qui va me poser des questions pour savoir si j'arrive à comprendre de quoi dans les Écritures, qui va me demander si j'ose témoigner de ma foi, qui va m'entendre parler puis qu'à un moment donné, il va me dire « Yannick, tu as le cœur rempli d'amertume ce matin. Ta bouche dit des choses qui ne glorifient pas Dieu. » C'est une grâce, ça. C'est une grâce quand quelqu'un a le courage de te dire ça. Et de ne pas t'abandonner quand tu persévères dans ton péché un peu plus longtemps. Ça, c'est une grâce extraordinaire. Et je l'ai vécu à plusieurs reprises. Différentes personnes sont passées dans ma vie et se sont investies en moi pour faire de moi un disciple de Christ. Et ce n'est pas que le privilège de ceux que Dieu appelle au ministère pastoral. C'est pas vrai, ça. C'est complètement faux, ça. Bien sûr, j'ai eu cette grâce-là, moi. Mais toute l'Église est appelée à prendre charge. Voyez-vous, dans la lettre aux Hébreux, l'auteur dit à des croyants qui ont plusieurs années de marche, il leur dit, vous devriez tous être des maîtres maintenant. Et Paul dit aux dames plus âgées qu'elles sont responsables d'enseigner aux dames plus jeunes à être de bonnes femmes chrétiennes, de bonnes épouses chrétiennes. Les dames plus âgées ont ce mandat. Vous l'avez, mes sœurs, ce mandat-là. C'est votre responsabilité. Ah, je peux le faire. Ma femme dit que je ne comprends pas toujours les femmes. Je ne suis pas sûr que vous voulez que ce soit juste moi qui fasse ça. Vous avez ce mandat-là. Vous l'avez. Et chacun d'entre nous, nous avons ce mandat de transmettre. Et je comprends très bien que lorsque j'arrive avec ça ce matin, plusieurs d'entre vous, vous vous dites, « Oui, mais Yannick, tu n'as absolument aucune idée où je suis rendu. Tu dis n'importe quoi parce que si tu savais comment est ma vie, tu ne me demanderais pas de faire ça. Ça risque de faire des dommages. » Prêtez-vous au jeu avec moi, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont parents dans la salle, j'aimerais ça que vous leviez la main. Faites-le. Tous ceux qui sont parents. En vois-tu qui n'ont pas la main levée, là? Maintenant, tous ceux qui sont parents, gardez la main levée. Tous ceux qui sont parents dans la salle, qui ont attendu d'être des adultes matures et accomplis avant d'avoir des enfants, gardez la main levée, s'il vous plaît. On met des enfants au monde, puis on n'est pas rendu encore. Totalement irresponsable comme comportement. Vous êtes cruel de faire ça. Non, mais honnêtement, qu'est-ce que ça prend pour être parent? Un bon parent chrétien. Aimer Dieu, aimer mes enfants, puis une bonne dose d'humilité. Êtes-vous d'accord avec moi? La prière. La prière. Après ça, il y a plein de choses qui viennent. Hein, mais moi, je résumerais ça à ça. Aimer Dieu, sérieusement, aimer énormément mes enfants, puis une bonne dose d'humilité. Le reste, on l'attrape pendant la course. On prend des cours, on lit, on demande pardon, on se repent, on revient, on corrige, puis on avance. C'est ça? C'est ça la formation de disciples. C'est ça la formation de disciples. Quand j'étais en train de me préparer cette semaine, j'ai dit, « OK, Seigneur, qui dans la salle je serais prêt à lui donner raison. Puis là, je passais des visages. Fait qu'il y en a une couple d'entre vous qui avaient passé dans mon esprit. Qui dans la salle, je serais prêt à lui donner raison qu'il n'a pas le mandat de former un disciple? Selon ses capacités. J'en ai pas trouvé un. Si vous appartenez à Jésus-Christ, j'ai tous dit oui. Pour chacun d'entre vous. Certains d'entre vous, ça va simplement être d'aller vers une personne puis de lui dire, je veux que tu saches que je te porte dans la prière puis je te regarde aller. Pour moi, tu es un modèle d'un jeune homme, d'une jeune femme, d'un jeune croyant qui aime le Seigneur. Et je te regarde aller, je te porte dans la prière. Et de temps en temps, de partager les choses que vous avez apprises. Pour certains, ça va se résumer à cela. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer, si vous ne l'avez pas vécu, le bien que ça fait. D'avoir quelqu'un qui nous prend à cœur, qui nous porte, qui nous accompagne, qui nous suit. Et pour la majorité d'entre vous, ça veut dire beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Je crois que Jésus ici ne vous a pas demandé plus que d'être parent. Spirituel. Et c'est la beauté de la chose ici. Tout le monde peut le faire. Marié, pas marié, enfant, pas d'enfant, vous pouvez être père et mère pour l'éternité. Paul a pris l'analogie. Il appelait ses enfants dans la foi des enfants. Il appelait ces gens qu'il avait conduits à Christ, en qui il s'est investi, ses enfants dans la foi. C'est comme ça qu'il les appelait. C'est lui qui a fait cette analogie. Elle est excellente. Et savez-vous quand est-ce que ça s'arrête? À peu près en même temps qu'on finit d'être parents. Quand est-ce qu'on finit d'être parents, Normand? Les Joseph le vivent actuellement avec des épreuves dans la famille au niveau de la santé. Ils vivent encore ce que c'est qu'être parent jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Un des disciples les plus choyés de toutes les saintes Écritures, dont on est témoin, c'est Timothée. Êtes-vous d'accord avec moi? Je veux dire, écoute, j'aurais voulu que Paul, c'est sûr que des fois, Paul, ça devait varloper pas mal. Là. Timothée devait marcher pas mal droit. Mais si vous allez lire les lettres, les épîtres pastorales, si je comprends bien ce qui se passe, le père spirituel de Paul, alors que Paul n'est plus un nouveau-né, alors que Paul est un pasteur, est encore en train de lui dire, « Lâche pas la patate, mon vieux! Continue, souffre avec moi! La course n'est pas terminée! Ranime le don qui est en toi! On continue, on marche avec le Seigneur! Laisse-toi pas tenter, va-t'en pas dans le péché, ne t'éloigne pas de Dieu, ne te détourne pas! Continue à marcher dans la sainteté, garde les yeux fixés dans les Écritures. Tout ce que je vous dis là, c'est dans les épîtres pastorales. Il me semble que c'est pour les nouveaux croyants, tout ça. Ça finit jamais. Ça finit jamais. Et j'en prends pour preuve, encore une fois, mon expérience personnelle. Richard Roule est probablement le premier homme qui s'est investi dans ma vie comme un disciple, dans une relation très intentionnelle, engageante, très fidèle. Mais je dois être un cas pas mal difficile parce que Richard Roule me consacre encore 3 heures par mois. On a pris une pause de 10 ans, mais il me consacre encore 3 heures par mois. Il y en a qui sont plus durs à former que d'autres, vous voyez? C'est un mandat qui est pour toute l'Assemblée, frères et sœurs, parce que le mandat qui nous a été donné, ce n'est pas juste de donner une information. Le mandat qui nous a été donné, c'est d'apprendre à des gens à marcher et à vivre l'Évangile au quotidien. Et ça ne s'apprend pas simplement en lisant un livre. Ça s'apprend en marchant avec des gens qui sont passés par là, qui nous soutiennent, qui nous supportent, qui nous encouragent. Et chacun d'entre nous, nous avons ce mandat. Il y a un volet individuel à ça. Vous avez la responsabilité de prendre des gens à cœur, d'être intentionnel, d'aller vers eux, j'en ai la ferme conviction. Et il y a un volet communautaire à ça, parce que tout ça va se vivre dans l'Église. La vie de l'Église en elle-même va venir pallier à 1 million de choses dans la formation du disciple en qui moi je m'investis. par le fait qu'on vient le dimanche matin, qu'ils sont exposés à l'adoration, que la personne que vous encouragez comme ça est exposée à la prédication, par le fait qu'elle vient à l'instruction chrétienne. Tu veux former quelqu'un? Tu veux que tes enfants soient des disciples de Jésus-Christ? De grâce, lève-toi le matin et apprends-leur à se lever. Viens ici à 9 heures. Déjà, tu vas leur enseigner que la parole de Dieu a une place majeure dans la vie d'un enfant de Dieu. Et viens ici à 9 heures. Tu veux former un nouveau disciple? Tu as l'instruction chrétienne ici avec plein de cours. Tu n'as pas besoin d'être un spécialiste dans tous les domaines. Moi, je ne le suis pas. Et quand je forme quelqu'un, il arrive régulièrement que je vais dire, « Écoute, veux-tu lire ça? Tu veux-tu prendre tel cours? » Parce qu'honnêtement, je pense que je vais aller le prendre avec toi. C'est ça que j'ai besoin. Alors là, je vais le lundi matin avec Alexandre prendre un cours de grec à l'Université de Montréal. Je n'étais pas placé pour lui donner le cours. Puis en plus, il m'a planté au dernier examen. La gloire à Dieu. Alors, il y a l'école du dimanche, il y a le service, il y a les petits groupes. Il y a les petits groupes pour la formation de la personne dans qui vous voulez vous investir. Elle doit être intégrée dans cette vie communautaire. Vous auriez dû entendre ce qui a été mentionné dans notre petit groupe mercredi. On ne vous le dira jamais, là, c'est entre nous. Mais si vous aviez pu voir ça, c'était l'Église dans toute sa beauté. Les requêtes qui ont été partagées là, les besoins qui ont été partagés là, l'écoute qui a été donnée là, le temps dans les Écritures. Alors, qu'est-ce que je fais si je forme un disciple? Je veux qu'il soit là avec moi. Je veux qu'il soit là, qu'il vive ça, que d'autres personnes que moi exercent un ministère dans sa vie, parce que de toute façon, cette personne-là ne m'appartient pas, elle appartient à Christ. D'autres hommes, d'autres femmes vont venir transvider, déverser leur vie dans sa vie. C'est un mandat qui est individuel et qui est communautaire pour servir, pour être dans les petits groupes, pour venir à l'instruction chrétienne, pour prendre l'occasion, comme Québec 2008, pour dire, « Bien, je suis en train de former quelqu'un comme disciple. On s'en va à Québec une fin de semaine cet été. T'es-tu malade? Moi, je vais aller cogner à des portes. » Mais attends, envoyez-le ensemble. C'est comme ça que j'ai appris à faire de l'évangélisation. Richard Roule m'a dit, « OK, on prend un E ensemble, ça va être moi ton coach dans E. » On appelle ça un coach spirituel. C'est le nom qu'on s'est donné au conseil. Vous êtes tous appelés à l'être dans la mesure de vos capacités. Alors, ce matin, dans les prochaines minutes, et puis je vais terminer avec ça, mais je vais vous demander votre patience, on va prendre quelques minutes. Je vais vous présenter, en gros, un plan de formation qu'on a mis sur pied. Et ce soir, on va en discuter beaucoup plus sérieusement avec les dirigeants des petits groupes, avec ceux qui aspirent à l'être, les responsables de ministère, et puis tous ceux ici qui ont à cœur de saisir davantage ce qu'on vous propose, de discuter avec nous. Venez ici à 18h30 ce soir, on va en parler ensemble. J'aimerais que les plaçants puissent distribuer les deux feuilles que vous avez distribuées. Chaque personne doit avoir les deux feuilles en main, s'il vous plaît. Et j'aimerais qu'on puisse me donner déjà les acétates. Maintenant, je sais que si vous n'avez jamais reçu ça, Ce n'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si je ne m'abuse, le 25 mai au soir à 18h30, on va donner une première formation de 3 heures pour tous ceux qui désirent être un coach spirituel. Et vous dites, je ne sais pas comment faire ça. Bien, moi, je suis privilégié, j'en ai eu plein dans ma vie. Et je commence à comprendre la patente. Alors, ça va me faire plaisir de vous donner une première formation. C'est quoi les principes qu'il y a derrière ça? Parce que voyez-vous, la formation de disciples, je vais le résumer comme ça, ça prend 3 choses. Ça prend une relation intentionnelle, ça prend une relation, ça prend des principes de formation et ça prend un plan de formation. Et avec ça, vous êtes en affaire. Évidemment, ça va vous prendre la dépendance à l'égard de Dieu, la prière, et vous allez avoir besoin de Dieu. Alors voici, ça prend une relation, non pas sur vos feuilles, mais sur l'acétate qui est en avant. Ça prend une relation, ça prend des principes de formation, et puis ça prend un plan de formation. Vous avez entre les mains 2 feuilles, une grande, une petite. Prenez la grande, s'il vous plaît. Et on va faire un exercice ensemble. D'accord? On a essayé de concocter une espèce de plan de formation de disciples. Et si vous tournez la feuille, de l'autre côté, vous avez un plan de formation de leader-serviteur. On a voulu voir, nous avons voulu voir la formation d'un disciple de Jésus-Christ comme un long processus qu'on a résumé en trois phases. Vous les avez au haut de votre page, du côté recto. Nouvelle naissance, croissance, maturité. D'accord? On essaie de résumer des principes bibliques. Alors, on se donne un langage pour se comprendre ensemble. Nouvelle naissance, croissance, maturité. Si vous regardez sur cette même feuille, le prochain acétate, s'il te plaît, Nathalie. Si vous regardez sur cette même feuille, la nouvelle naissance représente à peu près les trois premiers pas à droite, la croissance, les trois autres, et puis la maturité, lorsqu'on continue notre formation pour être un leader serviteur. D'accord? Maintenant, on va faire quelque chose ensemble ce matin. Je vais vous demander de vous évaluer. Ultimement, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous encercliez une des trois phases ou une des trois étapes, nouvelle naissance, croissance et maturité. Mais avant de faire ça, je vais vous demander, et on va prendre quelques minutes pour le faire, je vais passer à travers la feuille, je vous demande de mettre un X à côté de chacun des petits items qui sont pour vous accomplis dans votre vie. Ce n'est pas les Écritures que je vous donne là, c'est un résumé des principes bibliques, tel qu'on conçoit un disciple de Jésus-Christ dans cette assemblée. Alors, quelqu'un arrive dans l'Église, première chose qui se passe, il est accueilli dans l'assemblée. Évidemment, c'est son accueil, c'est son arrivée. Premier pas qu'il a à faire, tout probablement, c'est d'être régulier pour fréquenter l'assemblée. Si vous êtes ici depuis quelques semaines, vous êtes régulier, vous pouvez mettre un X là-dessus, juste à côté, je fréquente régulièrement l'assemblée. Deuxième étape, puisque dans une grande assemblée comme ça, on loue le Seigneur, on serre la main, on se fait une accolade, mais il n'y a pas énormément de discussions très profondes un à un ou en plus petits groupes. Je me joins à un petit groupe. Vous ne pourrez pas grandir sainement, de manière équilibrée, si votre relation avec les croyants se résume à ça ici. Vous ne pourrez pas le faire. Vous êtes déjà dans un petit groupe, mettez un X à côté. Là, ça va aller selon le besoin, et c'est pour ça que ça peut être passé. Vous êtes un chrétien d'une certaine maturité, et quelqu'un s'est déjà investi dans votre vie, comme coach spirituel. Comprenez à peu près l'idée. Si c'est le cas, je suis ou j'ai été suivi par un coach spirituel, mettez un X à côté. J'ai commencé à m'impliquer dans le ménage, l'entretien, bouffe pour tous, chorale, pouponnière. Pas n'importe où, mais des places où tout le monde pourrait commencer à s'impliquer. J'ai commencé à m'impliquer. Mettez un X à côté. Ça fait 3 ans que vous venez ici. Vous êtes convaincu que vous avez saisi l'Évangile. Vous n'êtes pas impliqué dans un ministère dans l'Église. Je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien, mais il y a quelque chose de l'Évangile que vous n'avez pas saisi. C'est notre conviction, c'est pour ça que c'est là. J'ai commencé à m'impliquer. Je lis régulièrement la Bible. On a un projet de lecture ici. Il y en a plein de plans de lecture. Je lis régulièrement les Écritures. J'ai suivi le cours « Le maître et son disciple » ou un équivalent. Vous venez d'une autre assemblée, c'est un cours des premiers pas. Il y en a plein de bons cours. Vous savez de quoi je parle si vous en avez suivi un. Je l'ai déjà fait. J'ai suivi mon cours de baptême, je vais accélérer un petit peu, et je me suis fait baptiser. Tout ceci est placé dans un ordre réfléchi. Tout ceci est placé dans un ordre réfléchi. J'ai commencé à partager ma foi. J'ai pris le cours de membre et je suis devenu membre. Je me suis attaché à une assemblée, en d'autres mots. J'ai commencé à m'impliquer peut-être dans d'autres ministères, peut-être que vous continuez à servir à l'accueil, c'est merveilleux, je ne veux pas les discriminer, mais en même temps, ça demande certaines connaissances pour s'impliquer dans certains ministères, comme l'école du dimanche, tout ça, ce qu'on appelle le service 2. Je prends plus de responsabilités dans le petit groupe, téléphoner des gens qui s'absentent, préparer des choses, m'inquiéter de certaines personnes, tenir la liste de requêtes de prière du petit groupe. Je suis en train de m'investir, je vais visiter des gens du petit groupe qui sont malades. J'ai pris un cours d'évangélisation pour vraiment bien savoir ce que je suis en train de présenter. J'ai pris un cours où le cours formait un disciple de Jésus-Christ. Rendu là, ça fait à peu près 2 ans que vous avez fait profession de foi, 1 an et demi que vous avez fait profession de foi, et j'ai la ferme conviction que vous êtes prêt à commencer à vous investir dans la vie de quelqu'un d'autre. Si vous ne l'apprenez pas là, plus tard, vous allez penser qu'il faut attendre l'âge de 60 ans pour être parent. Il faut le commencer très tôt. En prenant un cours, en apprenant. Si quelqu'un vous a formé, il va vous demander de remettre ce que vous avez reçu à quelqu'un d'autre, de passer au suivant. J'ai commencé à former un disciple à mon tour. J'ai commencé à animer dans le petit groupe. J'ai pris le cours « Gérer sa vie pour la gloire de Dieu », pour mettre plein d'ordre dans toutes sortes d'affaires, parce qu'on arrive tous avec notre héritage. J'ai pris des cours comme le survol du Nouveau Testament, le survol de l'Ancien Testament 1, survol de l'Ancien Testament 2. Mes connaissances bibliques commencent à s'approfondir. J'ai pris le cours « Discipline de la grâce », où on voit toutes ces disciplines de la prière, du jeûne, de la communion avec Dieu, ces disciplines de ce que je vais faire avec mon argent, comment est-ce que je vais gérer mes sous, ces disciplines de la confession même, des disciplines de la grâce. Cours doctrine essentielle 1, essentielle 2. Ensuite, je peux servir ailleurs. Je peux aller enseigner à l'école du dimanche à des enfants plus vieux, des adolescents, diriger un petit groupe, m'impliquer dans l'équipe de louange, être responsable d'un ministère. Et mon coaching formel prend fin. Celui qui s'est engagé avec moi à la première case me dit, « OK, peut-être qu'on va commencer à se voir deux fois par année, trois fois par année, tu m'appelles quand tu veux, mais je pense que tu es prêt à commencer à marcher pas mal par toi-même. » Et là, ça se peut que Dieu place sur votre cœur, j'ai tendance à vous dire, si vous avez fait tout ça, Dieu va placer sur votre cœur de tourner la page. Tourner la page et dire, « OK, maintenant je vais entrer dans la maturité, je vais commencer à servir davantage comme un leader. » Alors là, je vais aller vers un coach serviteur, quelqu'un qui va pouvoir me former à un autre niveau. Je vais désirer peut-être aller suivre la formation de LSR. Et on va partir une nouvelle cohorte en septembre de LSR. C'est une formation de 2 ans, environ 2 dimanches soirs par mois, si je ne me trompe pas. 1 dimanche soir par mois, merci Normand. Où vous allez avoir la formation sur ces choses-là. D'accord? Ensuite de ça, une fois que vous avez fait ça, votre leadership est affermi. Vous pouvez servir avec beaucoup plus de leadership. Vous pouvez aller servir dans le diaconat comme homme, comme femme. Vous pouvez être ancien en formation pour les hommes. Prendre une formation plus avancée sur le plan théologique. Considérer de prendre des cours de Sembec. Considérer d'embarquer dans la cohorte de Sembec parce que vous discernez tranquillement un appel à davantage encore pour servir le Seigneur dans une œuvre peut-être à temps plein. Et vous pouvez arriver au moment où, parce que vous aspirez à être ancien depuis des années, le conseil vous invite à venir comme ancien en formation. C'était déjà mentionné dans Service Leadership. Sur le conseil, et éventuellement, le conseil vous recommande à l'Assemblée comme ancien. Si vous avez suivi ce processus-là, quand on va vous recommander à l'Église, l'Assemblée va pouvoir vous poser n'importe quelle sorte de question sur votre caractère, sur votre connaissance des Écritures. Vous ne serez pas un docteur pour aller enseigner dans les séminaires. Vous allez connaître la parole de Dieu pour pouvoir veiller sur la saine doctrine, pour pouvoir vous investir dans des vies. Et une fois que vous avez mis tous les X que vous pouviez mettre là-dessus, vous êtes en mesure d'aller encercler à quelle phase de votre croissance vous êtes rendu. Sur la première page. Quelques minutes encore, puis je termine. Merci pour votre patience. C'est un plan. C'est un plan que je pourrais justifier avec 400 versets. Je pourrais démontrer chacun des points là-dedans. Il y a d'autres églises qui ont d'autres plans. On s'est donné un outil, c'est tout, pour honorer les mandats que Dieu nous a donnés. C'est la direction qu'on veut vous donner, frères et sœurs, comme anciens, comme pasteurs. Parce que notre rêve, c'est de former des disciples de Jésus-Christ. Prenez la deuxième page. Prenez la deuxième page. Imaginez un instant, frères et sœurs, que tous ceux ici qui ont 2 ans de vie chrétienne s'engagent dans la mesure de leur capacité. Tous ceux d'entre vous qui ont 2 ans de vie chrétienne et plus, vous vous engagez dans la mesure de vos capacités à vous investir dans une vie pour 4 ans. Des fois, vous allez avoir besoin d'humilité pour dire, écoute, ça, on va aller prendre le cours ensemble parce que j'ai encore de la difficulté à témoigner. Vous allez lui enseigner une des leçons les plus importantes de la vie chrétienne. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est humble, qui est capable de reconnaître ses faiblesses. Imaginez un instant que tous ceux ici qui ont 2 ans de vie chrétienne et plus s'engagent dans la vie d'une autre personne. Avec l'assistance de tout le corps, à travers toutes les ressources qu'il y a dans cette assemblée. On va commencer à rêver grand pour l'œuvre de Dieu. Amen. On va commencer à rêver grand. Je vous ai donné ce matin une feuille d'engagement. Peut-être que vous allez décider de partir avec, de nous la remettre une autre semaine, c'est correct. Je vous demande déjà de nous parler. J'ai besoin de vous entendre, frères et sœurs. Si je reçois 3 feuilles, je vais savoir que j'ai beaucoup de sermons à préparer, puis j'ai beaucoup de temps à passer à genoux sur mes genoux, dans la prière. J'ai besoin de vous entendre, frères et sœurs. J'ai besoin de savoir dans quelle mesure nous sommes prêts comme Église à former des disciples de Jésus-Christ. Avec crainte et tremblement. Vous savez, dans les dernières années, il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire, « Yannick, est-ce que tu peux me former? » Mon épouse est témoin de ça, et ces gens-là en sont témoins parce qu'à la première rencontre qui a suivi, je leur ai dit, « J'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir vraiment te transmettre parce que je me sens plus honoré que tu me demandes de te former que l'inverse. » Je vous le dis, là, je suis très sincère, très sincère. J'avance là-dedans avec crainte et tremblement, mais je suis convaincu que Dieu nous a donné ce mandat-là. Alors, vous avez une feuille d'engagement. Je vous demande de mettre votre nom, de le remettre au kiosque d'information, de le remettre à un placeur, de me le redonner en passant. Je m'engage personnellement à suivre le plan de formation pour grandir, moi, à l'image de Christ. Je vais partir avec cette feuille-là et je vais dire, OK, dans 6 mois, dans 1 an, je me réévalue parce que je veux accomplir certaines de ces choses-là. Je veux régler certaines de ces questions-là. Je désire être coaché comme disciple en formation. Je ne sais pas si on va suffire. À la demande, par la grâce de Dieu, on va le faire. Et je m'engage à m'investir sérieusement dans cette démarche. D'ailleurs, c'est la première chose qui va vous être demandée. J'assisterai à la formation « Former un disciple de Jésus-Christ » le 25 mai à 18h30. Je m'y engage. J'ai besoin d'apprendre. Je désire diriger un petit groupe. Je désire être coaché comme leader serviteur en formation. Je pense que je suis rendu à la phase maturité et j'aimerais ça être coaché. J'aimerais ça servir davantage comme leader, grandir, et je m'engage à m'investir sérieusement dans cette démarche. Je désire coacher un leader serviteur en formation. Je pense que je suis rendu là. J'aspire à la charge d'ancien et je suis disposé à suivre la formation à cette fin. Je désire suivre des cours avancés de Sam Beck. J'aspire à servir le Seigneur dans une œuvre à temps plein ou à temps partiel, comme pasteur, comme missionnaire ou dans un ministère. Il y a un frère, une sœur qui m'ont partagé cette semaine, qui se prépare assez rapidement pour la retraite. Et là, ils cherchent la face de Dieu parce que, bien qu'ils soient à la retraite, ils veulent donner du temps au Seigneur. Ça, c'est des missionnaires à temps partiel, ajustés selon leur âge, les capacités physiques, le temps de repos que ça prend. Et c'est une vraiment une bénédiction pour l'Assemblée. On va prier ensemble pour terminer et j'inviterai l'équipe de louanges à s'avancer. Seigneur Jésus, tu nous as appelés à former des disciples de Jésus-Christ. Tu nous as appelés à enseigner à des gens qui ont saisi la bonne nouvelle, à pardonner, à te chérir plus que toute autre chose, à renoncer à marcher selon les voies de ce monde pour marcher selon toi, à se donner sacrificiellement pour ton œuvre. Seigneur Jésus, tu nous as appelés à former des disciples, non des théoriciens, mais des praticiens. Seigneur, je suis tellement reconnaissant, et tu sais, mon Dieu, à quel point je suis reconnaissant pour toutes les personnes qui se sont investies dans ma vie et qui continuent à le faire, Seigneur. C'est une grâce que je ne pourrais pas exprimer, Seigneur. Il faut le vivre. Et je te bénis pour cela, pour ces gens qui m'ont donné des centaines d'heures seul à seul, pour m'écouter et me conseiller. Oh, je te bénis, Seigneur. Et je te prie, Père, dans ta grâce, de m'aider, de nous aider comme conseil d'anciens et d'aider cette assemblée à entrer dans ce mandat, Seigneur. Nous allons le faire avec crainte et tremblement. Nous ne nous sentons pas à la hauteur de cet appel, Seigneur. Je ne me sens pas à la hauteur même d'être ici en avant ce matin, Seigneur. Et tu le sais. Mais j'obéis à l'appel, Seigneur. Et je m'avance pour ta gloire. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen.